Vous êtes sur RTL.
.fr.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Il est 8h20, merci d'écouter RTL. C'est aujourd'hui que sort donc la PS5, la PlayStation 5 fabriquée par Sony, un événement très attendu par les amateurs de jeux vidéo. La dernière PlayStation est sortie il y a maintenant 7 ans et à l'approche de Noël, en plein confinement, les ventes de ces consoles seront probablement très importantes. L'occasion de s'intéresser ce matin à l'économie du jeu vidéo, c'est avec vous Arnaud Touche, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est en combien pèse l'univers du jeu vidéo aujourd'hui ?
Oui, 148 milliards d'euros, c'est le montant des revenus que l'industrie du jeu vidéo va générer cette année. Selon le cabinet Newzoo, ce nombre est en hausse de 21% par rapport à l'année dernière. Et les consoles, elles représentent à elles seules 50 milliards de dollars.
Et en France, Arnaud ?
Eh bien, le chiffre d'affaires du marché français était de presque 5 milliards d'euros l'année dernière. C'est la deuxième performance historique du secteur.
A-t-on une quelconque idée du profil type du joueur français ?
Absolument. Le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs a réussi à faire le portrait robot du joueur français. Alors déjà, 7 Français sur 10 jouent aux jeux vidéo aujourd'hui. Cela fait tout de même près de 37 millions de personnes.
Incroyable.
La moitié au moins une fois par semaine. Et il y a quasiment autant d'hommes que de femmes. 52% d'hommes et 48% de femmes pour être précis. En 1999, Yves, c'était plutôt 80% d'hommes pour 20% de femmes.
Quelle catégorie d'âge joue le plus ?
Eh bien là, sans surprise, ce sont les jeunes, 99% des 10-14 ans, mais plus d'une personne sur deux âgée de 55 ans et plus joue aux jeux vidéo aujourd'hui. Et l'âge moyen du joueur français est aujourd'hui de 40 ans.
Alors sur quoi jouent les Français justement ?
Alors majoritairement le smartphone, ça c'est le numéro 1, il faut dire que les applications ne manquent pas. Ensuite c'est sur l'ordinateur, puis viennent ensuite les consoles de jeux.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs français dans ce secteur bien spécifique ?
Oui, une grande société reconnue mondialement, il s'agit d'Ubisoft. Elle est surtout connue récemment pour la saga Assassin's Creed et au tout début notamment c'était pour le jeu Rayman. Mais il y a une touche française, c'est vrai, dans les jeux vidéo, m'expliquait un spécialiste du secteur hier. Les artistes, designers et animateurs sortis des écoles françaises sont très courtisés et embauchés dans les studios américains ou encore asiatiques. Il y a par ailleurs beaucoup de studios de jeux vidéo en France, à Roubaix, Montreuil ou encore Bordeaux. À Bordeaux, justement, le studio Asobo a travaillé au développement de Flight Simulator 2020. C'est un simulateur de vol, les décors sont bluffants et les talents de ce studio sont même reconnus à travers le monde aujourd'hui.
Bref, nous sommes bons dans ce domaine, merci beaucoup Arnaud Touche et bonjour et bienvenue à Michael Stora.
Bonjour Yves Calvi.
Vous êtes psychologue, psychanalyste et fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Vous venez d'entendre Arnaud Touche et ses chiffres qui donnent le tournis grâce au Covid. Et contrairement à ce qui s'est aujourd'hui, je ne parle pas de vous, les spécialistes, la société française semble découvrir que le jeu vidéo peut être favorable aux liens familiaux en temps de Covid. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Michael Stora ?
Oui, évidemment. Alors, je ne sais pas si c'est grâce au Covid, mais en tout cas, le confinement, c'est sûr, évidemment, a fait que d'un coup, les parents étaient obligés de s'intéresser à ce que faisaient leurs enfants et leurs adolescents. Et entre autres, évidemment, la pratique des jeux vidéo. J'ai envie de dire qu'en effet, paradoxalement, c'était un bon moment pour enfin faire de l'écran un lieu de partage, d'arrêter de stigmatiser les jeux vidéo et de créer une sorte de fossé générationnel qui empêchait finalement de jouer en famille. Et je crois que ça, c'est important de se dire que ça a été cette période étrange où il a fallu un moment prendre le risque de jouer avec son fils, de regarder ses enfants jouer, de partager véritablement des parties. Et en soi, c'est une chose positive.
J'ai été frappé de voir qu'on avait très longtemps abordé, notamment dans la presse, ces questions par le biais le plus négatif. Et c'est quasiment la première fois que l'on voit autant d'articles allant dans ce sens. Comment l'expliquez-vous ? Qu'est-ce qui fait qu'on a changé de point de vue, par exemple, sur le gaming ?
Oui, alors, il y a aussi une évolution. Ça fait quand même, maintenant, le jeu vidéo est un objet culturel qui date.
Ouais.
Il y a une évolution. Les parents qui ont 40 ans ont connu l'objet jeu vidéo dans leur propre enfance. Et donc, c'est évident qu'il est enfin possible, quelque part, de partager, voire même avec une forme de nostalgie, ce qu'on appelle le rétro gaming.
Oui.
Donc on voit bien comment cette culture est devenue une culture véritablement à part entière et familiale. Et je ne peux que saluer cette évolution, parce qu'en effet, cette forme de diabolisation du jeu vidéo a paradoxalement plu aux adolescents parce qu'ils aiment les lieux un petit peu transgressifs.
Oui, de rupture.
Mais oui, voilà, c'est ça. Mais en même temps, a finalement empêcher cette capacité à pouvoir baisser notre niveau de peur. Et toute forme de peur en soi est toujours négative pour n'importe quelle chose parce que justement, elle ne fait que renforcer une incompréhension. Donc je pense que c'est plutôt positif. Et sans jeu de mots, j'ai envie de dire que la console peut quelque part consoler, peut-être aussi dans certains moments.
En vous écoutant, je me disais que d'une certaine façon, la société a pris une forme de maturité par rapport aux jeux vidéo. Est-ce que ce serait le bon terme ?
Oui, c'est vrai. Vous savez, au fond, au tout début, l'objet jeu vidéo était une sorte de contre-culture, pourquoi pas, de l'image très idéalisée qui était celle de l'image télé. Au fond, avec le jeu vidéo, enfin, on pouvait manipuler les images comme peut-être on avait l'impression qu'elles nous manipulaient. Oui. Et c'était très intéressant comme évolution. Et finalement, bah maintenant, ça y est, elle est rentrée. Ça a été dit, on joue énormément sur son smartphone. Le jeu est au-delà du jeu vidéo, le jeu est un espace nécessaire pour tout être humain. Mmh. Ça permet quelque part de redevenir acteur de situations parfois où on est passif. Je crois que en soi, je trouve ça plutôt sain d'aimer jouer. Après, quand on rentre dans le détail, on se rend compte qu'il y a des jeux hyper compétitifs et d'autres jeux où on peut se laisser aller à la rêverie.
Alors justement, on se dit quand même que ça favorise l'isolement et que ça peut être néfaste à l'équilibre psychique. Iriez-vous jusqu'à dire que ça fait du bien et que nous sommes aujourd'hui assez matures pour le reconnaître d'une certaine façon ?
Oui, alors c'est toujours compliqué parce que l'idée de se faire du bien, vous savez, dans notre société un peu, une culture un petit peu chrétienne, c'est parfois un peu coupable comme plaisir. Mais au-delà, oui, j'ai repéré dans mon travail que malheureusement certains jeunes qui étaient déjà dans des problématiques ont fait un moment de l'objet jeu vidéo un objet quasiment auto-curatif, oui. Avec un peu des formes d'addiction. Et c'est évident que le confinement a pour certains renforcé ces pratiques totalement excessives, problématiques, où quelque part le game, l'enjeu l'emporte sur le plaisir de jouer. Et ça, ça me paraît évident que tout objet de plaisir, comme le jeu vidéo, peut avoir pour certains cette forme d'addiction qu'on peut repérer.
Le jeu est un refuge ?
Oui, c'est ça. Je pense que le jeu peut devenir un refuge. Alors, on a besoin de refuge, on a besoin d'espace de rêverie. Je crois qu'il ne s'agit pas de vouloir être toujours fort et affronter le réel. On a le droit aussi, à certains moments, d'avoir ces espaces, comme on l'a eu avec la lecture ou d'autres choses. Mais dans mon travail, je repère certains jeunes déjà qui avaient des problématiques de phobie scolaire, phobie sociale. Et pour certains, le jeu vidéo va être véritablement ce refuge qui, pour certains, peut devenir une forme de prison.
On s'est beaucoup inquiété des addictions. À certains moments, on en a parlé quasiment comme d'une forme de drogue et de drogue numérique. C'est une réalité ?
Alors écoutez, c'est vrai que c'est une réalité que moi j'observe dans mon travail de clinicien.
Oui.
Comme vous le savez, l'OMS a reconnu la question d'une addiction du jeu vidéo en ligne.
Oui.
Étrangement, quelques mois après, d'ailleurs ce qui a fait beaucoup rire les gamers, il a dit jouer surtout aux jeux vidéo parce qu'il fallait à partir du confinement s'isoler. La question, vous savez, presque au-delà de est-ce que ça existe ou pas, je pense que c'est plutôt la manière dont on les soigne. Malheureusement, on les soigne souvent par des hospitalisations qui, d'après moi, sont parfois abusives, à grand renfort de médicaments. Je me permets un peu d'évoquer le fait que j'ai lancé l'école des héros, qui a été entre autres financée par l'État, qui aide les jeunes qui étaient des joueurs excessifs à devenir des créateurs de jeux. Et pour le moment, c'est un véritable succès. Et c'est vrai que je crois que c'est une autre manière d'envisager le fait que beaucoup de joueurs excessifs, parfois passionnés, il faut les aider, pourquoi pas, à devenir créateurs, puisque ça reste quand même une industrie plutôt florissante.
Avant de nous séparer, s'il y a un mot à prononcer ou un conseil à rappeler pour justement ne pas se faire piéger et devenir addict, je vais dire dépendant, voilà.
Oui. Écoutez, moi je suis très mauvais en conseil, mais ce qui est vrai, c'est
alors
que...
Alors ne donnez pas, je ne veux pas vous forcer la main.
Non, mais j'ai envie de dire, comme je l'ai dit à un moment, au fond, dès que les parents commencent à s'intéresser au-delà de l'écran, à d'autres problèmes, c'est ça le problème, c'est que souvent l'écran fait écran, on accuse rapidement un objet. Donc je crois que c'est plutôt de prendre le temps de comprendre ce qui peut se passer, au-delà de la pratique du jeu vidéo, même si elle est excessive.
Merci infiniment de nous avoir donné toutes ces informations et vos analyses. Michael Stora, et je remercie aussi Lucas Dindelo qui était à vos côtés pour réagir. Oh là là, je vais y arriver. Pour réaliser cette liaison. Bonne journée à tous les deux. la météo de